Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Nicolas Brousse.
Bonsoir ou peut-être bonjour, comme dirait Philippe Le Caplain qui n'est pas là ce soir, mais je suis ravi de vous retrouver pour la vitrine de l'une des richesses des RFI, ses rédactions internationales. La preuve par trois encore ce soir avec Mihaela Antoche de la rédaction roumaine. Bonsoir.
Buonasera.
Qui de mieux pour nous éclairer sur la situation confuse en Roumanie avec, il y a pile une semaine, l'annulation tout simplement du second tour de l'élection présidentielle. Olia Horton de la rédaction anglophone, bonsoir.
Good evening.
Vous nous emmènerez au musée de l'histoire et de l'immigration à Paris pour une expo qui met l'immigration à l'honneur. Elle s'intitule « Chaque vie est une histoire ». Elsa Vidal de la rédaction russe, bonsoir.
Dobry vecher.
On parlera avec vous de la Géorgie qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Mais d'abord, le titre qui a occupé toutes les rédactions, la Syrie et la chute de Bachar el-Assad, fils de Hafez al-Assad, qui avait lui-même dirigé son pays d'une main de fer, pour employer un euphémisme. Elsa, la chute de la maison Assad a des conséquences pour le rayonnement international du Kremlin.
Absolument, Nicolas. L'écroulement, tel un château de cartes du régime de la famille Assad, est survenu à une vitesse éclair entre le 27 novembre et le 9 décembre. Et il a pris de court les observateurs et les dirigeants étrangers, les Russes ne faisant pas exception. Le 7 décembre, lors de la 22e édition du Forum de Doha, dont le sous-titre est « Diplomatie, dialogue et diversité », Sergueï Lavrov, qui exerce les fonctions de ministre des Affaires étrangères pour la Russie depuis plus de 20 ans, a répondu aux questions d'Al Jazeera sur la capacité de l'armée syrienne et de ses alliés russes à résister à la poussée de la coalition soutenue par la Turquie, sur un ton assez différent de celui auquel il nous avait habitués. On l'écoute.
If you want me to say yes, we lost in Syria, we are so desperate. If this is what you need, let's continue.
Elsa, qu'est-ce qu'il nous dit, Sergueï Lavrov ?
Eh bien, Sergueï Lavrov, dans une langue qui n'est pas vraiment sa spécialité, puisqu'il parle singalais, et là, il parle un anglais avec un fort accent russe, nous explique, dans un dialogue très tendu avec le journaliste d'Al Jazeera, qu'il n'est pas très heureux de la situation, mais que surtout, son job à lui, c'est pas de prévoir l'avenir. Et en effet, avec Al Jazeera et l'ancien représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Sergueï Lavrov, a critiqué le traitement par la chaîne de télé Qatari de l'actualité en Syrie et affirmé que la Russie était, elle, en faveur de la mise en œuvre de la résolution 2254 de l'ONU en Syrie, en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État et pour un règlement diplomatique du conflit. Il a aussi affirmé que le mouvement HTS ou HTC était un mouvement terroriste. Mais l'essentiel est dans un aveu consenti du bout des lèvres, non seulement celui d'une défaite, mais aussi d'une incapacité, sans doute relative, à avoir prévu les événements. Car si le Kremlin est pris de court, les négociations sur les intérêts russes avec les nouveaux maîtres de Damas sont-elles lancées ? Et à défaut d'avoir empêché la chute de l'ancien président syrien, celui-ci a été évacué vers Moscou avec sa femme et leurs trois enfants, dont son fils aîné, qui est d'ailleurs diplômé de l'université de Moscou. Mais c'est une défaite, car la politique russe au Moyen-Orient, elle s'inscrivait d'ailleurs dans le sillage de celle de l'URSS en Syrie, et elle a été mise en échec, tout comme celle de l'Iran. Ainsi, la projection de puissance de la Russie dans cette région s'est-elle résumée au départ précipité de la plupart des moyens militaires et humains russes et l'évacuation de la famille du dictateur qui a obtenu, et c'est une ironie, le statut de réfugié politique, statut que Moscou refusait aux Syriens pendant la guerre. Ce n'est pour le moment qu'un chapitre dans un jeu sur la longue durée, mais ce chapitre a un nom et c'est un revers.
Voilà donc pour cette position de la Russie. Je ne me permettrai pas de donner de leçons sur l'accent anglais de Sergueï Lavrov. Si vous entendez le mien, on va avoir quelques problèmes. En tout cas, cette chute de Bachar el-Assad a suscité de vives réactions à Moscou, évidemment, mais en fait partout dans le monde, au lien notamment chez les anglophones, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On va commencer d'abord par la réaction de Londres.
Effectivement, le Premier ministre britannique Keir Starmer a décrit la chute d'Assad comme un tournant pour la Syrie. Il a appelé aussi en même temps pour une transition pacifique vers une stabilité politique à long terme. Il a aussi mis une emphase sur une opportunité de paix pour assurer la protection des civils et en particulier les minorités religieuses, notamment. Et Londres a d'ailleurs débloqué un package de 13,3 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Starmer, qui est en poste seulement depuis juillet, est un ancien avocat des droits humains. Et donc, lui, il attend de le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, un rejet du terrorisme pour pouvoir progresser. Il dit que le groupe rebelle, il n'exclut pas le dialogue avec eux. C'est intéressant. Par contre, il était interrogé à propos de l'éventuel retrait de ce groupe qui est sur une liste internationale des organisations terroristes. Il a dit qu'aucune décision n'était prise à ce moment-là et c'était trop tôt. Donc, en conclusion, le Royaume-Uni reste très, très prudent vis-à-vis de l'avenir de la Syrie et compte surtout sur le soutien de ses alliés comme les États-Unis.
Et justement, à Washington, ça n'est pas si simple. On parle de divergences en interne.
Effectivement, la situation diplomatique est fragile et délicate parce qu'il y aura la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump prochainement, le mois prochain. Pour Biden, le chute d'Assad représente une opportunité historique, dit-il, pour reconstruire le pays, un meilleur avenir. Mais il dit qu'il y a des risques, il y a beaucoup d'incertitudes, mais son champ de manœuvre est largement réduit. Mais de son côté, Trump, il ne cache pas sa volonté de garder du recul. Il appelle de ne pas se mêler de la situation en Syrie. Il a appelé même sur les réseaux sociaux de dire « c'est pas notre problème, ils devront se débrouiller tout seuls, nous ne sommes pas impliqués là-bas ». Mais en réalité, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué parce que les États-Unis ont 900 soldats en mission en Syrie qui luttent contre le groupe État islamique. Donc les Américains, évidemment, ils craignent que la chute d'Assad donnera une opportunité pour les djihadistes de regagner du terrain.
Et c'était d'ailleurs le message donné par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant sa tournée au Moyen-Orient et en Turquie cette semaine.
Effectivement, il a dit, comme les Britanniques, il veut une transition inclusive, un gouvernement responsable et tout ça. Mais je pense que grosso modo, Blinken, il a surtout réitéré l'importance d'avoir le partenariat avec les forces démocratiques syriennes, les FDS, pour empêcher l'apparition des djihadistes à nouveau dans le secteur. Mais comme vous savez, le FDS contrôle les vastes régions et c'est un groupe que la Turquie a mis sur une liste terroriste. Donc, ça fragilise les relations entre la Turquie et les États-Unis parce qu'ils doivent travailler ensemble pour empêcher les djihadistes. Mais d'un autre côté, c'est une situation très, très compliquée.
Et on y reviendra d'ailleurs avec Bruno Daru tout à l'heure dans Le Monde en question. En attendant, Mia et là, on va évoquer les relations de la Roumanie avec la Syrie. Elles remontent à loin pendant la période du communisme, lorsque Nicolae Ceaușescu était au pouvoir. La collaboration entre les deux pays était alors très forte.
Oui, tout à fait, Nicolas. Alors que la situation en Syrie évolue d'un moment à l'autre, comme mes consoeurs ont déjà parlé, je voudrais vous parler de la Roumanie et de la Syrie pendant la période communiste lorsque Nicolae Ceaușescu était au pouvoir. Probablement, vous ne connaissez pas, il est moins connu que la Roumanie avait des relations anciennes avec la Syrie. À Alep, ou Alep, je ne sais pas comment vous prononcez, on dit Alep.
Alep, ça nous va.
Oui, il y avait un consulat honoraire de 1925 à 1940 et le commerce était effectué par le port de la mer Noire qui s'appelle Constanța. Autre que ces liens commerciaux, certaines relations culturelles se sont également développées. Les relations diplomatiques entre la Roumanie et la Syrie ont été établies en 1955 et l'ambassade de Roumanie à Damas a été ouverte en 1961 et celle de la Syrie à Bucarest en 1965. Il est intéressant de noter la relation que Nicolae Ceaușescu entretenait avec Hafez al-Assad, le dirigeant syrien de l'époque. Avant la chute du régime, Nicolae Ceaușescu s'était rendu 5 fois en Syrie. Et plus de 35 000 Syriens ont fait des études universitaires en Roumanie et plus de 15 000 de femmes roumaines ont épousé des Syriens et obtenu la double nationalité. Même dans les dernières années du communisme, les relations économiques entre la Roumanie et la Syrie étaient très importantes. Les investissements roumains ont dépassé, on dit ça, 100 millions de dollars à cette époque.
Et la chute du régime Ceaușescu, c'était après la révolution de 1989. Est-ce que cela a changé les relations?
Oui, bien évidemment, mais les relations entre les deux pays ont diminué en intensité. En 2008, le président roumain de l'époque, Traian Băsescu, a visité Damas et 2 ans plus tard, le président Bachar al-Assad était dans la capitale de la Roumanie, Bucarest. Je vais écouter un peu pour vous dire que La levée des sanctions semble prématurée à la réunion, et la réunion de Bruxelles la semaine prochaine pourrait apporter plus de précisions puisque nous parlons de groupes islamistes radicaux qui ont pris le pouvoir et figurent sur la liste des organisations terroristes, sans oublier que la Roumanie est restée le seul État de l'Union européenne et de l'OTAN qui n'a pas suspendu l'activité diplomatique de l'ambassade à Damas pendant la période de guerre civile. Et voilà que, comme ça, on peut dire comment les relations entre la Syrie et la Roumanie ont évolué.
20 часов в Париже,
20
Accent du monde. Nicolas Brousse.
Une petite virgule offerte à Mihaela, puisque c'est elle qui garde la parole. On va parler de la Roumanie. Il y a une semaine, jour pour jour, était annoncée l'annulation du second tour de l'élection présidentielle. Annulation surprise, Mihaela, alors que les bureaux de vote pour la diaspora avaient déjà ouvert depuis quelques heures. Comment cette décision a été prise ?
Alors Nicolas, les résultats du premier tour d'élection présidentielle ont surpris tout le monde. L'indépendant Călin Georgescu est arrivé en tête, suivi d'Elena Lasconi de l'Union Sauver la Roumanie. Pour la première fois, les sociaux-démocrates n'avaient pas de candidat au deuxième tour. Il y a eu des soupçons d'interférence possible dans le processus électoral, de manipulation, d'influence de processus électoral sur les réseaux sociaux, en particulier de réseaux, on parle ici de réseaux TikTok et Telegram. Je voudrais également souligner qu'entre les deux tours présidentiels, des élections parlementaires ont eu lieu aussi. Partant d'une série de signaux et afin de dissiper tout soupçon, la Cour constitutionnelle a donc décidé de recompter les votes après le premier tour. L'ordre des candidats n'a pas changé après le dépouillement. Le président Klaus Iohannis a convoqué le Conseil suprême de la défense pour voir un petit peu comment se déroulent les choses. Et il faut parler un petit peu de quoi c'était. Si vous, Nicolas, me demandez qu'est-ce que s'est passé, je peux vous dire tout de suite.
On essaye de comprendre parce que la décision de la Cour constitutionnelle a été non seulement surprenante, mais en fait historique, sans précédent. Donc forcément, ça suscite des réactions.
Et tout le monde a attendu le président Klaus Iohannis, qui au deuxième mandat devait passer le pouvoir au président élu le 20 décembre, ça veut dire la semaine prochaine. Quelques heures après l'annonce de la décision de Cour constitutionnelle, il a, comme tu as dit, il y a déjà une semaine, Klaus Iohannis a déclaré devant le Roumain, « Je reste en fonction, mais je vous laisse de l'écouter. »«
Eu rămân în mandat până când va fi ales un nou președinte al României. »
Donc il nous dit « Je ne bouge pas. »
Il dit « Je reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la Roumanie. La Roumanie reste un pays stable, solide et sûr. Pro-européen, la Roumanie reste un allié solide et sûr et je pense qu'il est très important que nous sachions tous que la Roumanie n'est pas en difficulté. »
Et pourtant, la Cour constitutionnelle, elle, a invoqué des attaques hybrides agressives menant à la Russie. Alors, on vient d'entendre le président en place, mais quelles ont été les déclarations des deux candidats à sa succession ?
Le candidat arrivé en tête, qui s'appelle Călin Georgescu, candidat indépendant de 62 ans, est considéré comme un souverainiste avec des sympathies pro-russes, ultranationalistes plutôt d'extrême droite. Le vote pour Călin Georgescu aura été favorisé par les algorithmes de réseaux sociaux, les comptes coordonnés et une promotion payante. Călin Georgescu a déclaré zéro dépense de campagne. Je vous prie de l'écouter, Călin Georgescu.
În această zi, statul român a luat democrația și a călcat în picioare. Decizia curții.
Il dit ce jour-là, l'État roumain a pris la démocratie et l'a piétiné. La décision de la Cour constitutionnelle est donc plus qu'une simple controverse juridique. C'est pratiquement un coup d'État formalisé. L'État de droit est dans un coma artificiel et la justice subordonnée aux ordres politiques a pratiquement perdu son essence. Et nous arrivons à Elena Lasconi, 52 ans, candidate au deuxième tour des élections présidentielles centriste pro-européen, soutenue par l'Union Sauver la Roumanie, avec qui étaient sociaux-démocrates, les libéraux, l'Union démocratique des Hongrois en Roumanie, ça veut dire une alliance pro-européenne. Je vous en prie d'écouter Elena Lasconi.
Astăzi este momentul în care statul român a călcat.
Alors, on dit tout de suite au ton, on l'entend, elle est pas contente non plus.
Non, elle dit aujourd'hui, c'est le moment où l'État roumain a piétiné la démocratie. Dieu, le peuple roumain, la vérité, la loi, pauvre don, et trouveront ceux qui sont coupables de détruire notre démocratie. Il ne s'agit pas de moi, dit Elena Lasconi. L'économie s'effondre, vous détruisez la démocratie, vous plongez le pays dans l'anarchie. Nous aurions dû aller de l'avant avec le vote. Alors, le président convoque en séance solennelle le futur Parlement, ça veut dire la semaine prochaine. Il y a maintenant des négociations. L'année prochaine, il y aura des nouvelles élections. Et en attendant, les enquêtes en cours devront répondre aux questions que chaque Romain se pose. Qui sont les coupables de la tentative d'influencer massivement le résultat du vote?
Un dossier que nous suivrons bien sûr sur Radio France Internationale. Elsa, on va encore parler en filigrane de la Russie face à son emprise croissante. La Géorgie résiste, mais elle aussi s'enfonce plus profondément dans la crise.
Oui, Nicolas, le 14 décembre, c'est-à-dire demain, les députés géorgiens éliront au suffrage indirect, pour la première fois de cette manière, un nouveau président dans un contexte de manifestations ininterrompues, entrée dans leur troisième semaine suite aux graves et nombreuses infractions constatées lors des élections législatives du 26 octobre. Or, ce devrait être un ancien footballeur d'extrême droite, Mikhail Kavelashvili, âgé de 53 ans et fervent soutien du parti Rêve géorgien, considéré comme pro-russe, qui devrait être élu. Et ce, alors que la présidente sortante, Salomé Zourabichvili, a déclaré refuser de quitter ses fonctions face à la pression du parti Rêve géorgien au pouvoir depuis 2012.
Mais en fait, il se passe quoi en Géorgie ?
Eh bien, en Géorgie, la crise a débuté au printemps et connaît une nouvelle ampleur depuis que des milliers de Géorgiens contestent la légitimité du Parlement issu des urnes du 26 octobre dernier, dans un scrutin entaché d'irrégularités. Et depuis, des cortèges de manifestants appantent chaque soir les rues de plus de 42 villes de cette République du Caucase. La réponse des autorités, quant à elle, est de plus en plus ferme et répressive, de jour en jour. On dénombre aujourd'hui plus de 400 arrestations, des condamnations à des peines de prison de 12 à 15 jours, comme on le pratiquait en Russie, et l'intervention de Titouchki, ces gros bras, généralement au visage masqué, qui sont là pour effrayer les manifestants et qui n'hésitent pas à passer à tabac, journalistes et activistes, comme en témoigne l'agression d'une équipe de la télévision indépendante Pirveli le 7 décembre dernier.
Elsa, le défi en 40 secondes, qu'est-ce qui a déclenché cette crise ?
Eh bien, cette crise a été déclenchée en un tour de main par le Premier ministre actuel qui a refusé de continuer le chemin vers l'Europe et suspendu toute négociation en ce sens. Dans un pays qui est déjà occupé à 20% par l'armée russe, cela rappelle que le cheminement vers l'Europe peut être interrompu et que l'ombre russe peut continuer à s'étendre dans une gouvernance qui fait tout à fait peur.
Défi relevé par Elsa Vidal. Et comme ça, nous avons deux minutes pour parler culture avec une exposition qui met l'immigration à l'honneur. Ça se passe à Paris, au relativement méconnu musée de l'histoire de l'immigration que l'on va visiter grâce à vous, Olia. Plus précisément, l'expo « Chaque vie est une histoire », c'est même une double exposition jusqu'au 9 février qui veut présenter à la fois un côté artistique et un côté documentaire sur le thème de l'immigration.
Effectivement, il y a une sélection de pièces en provenance de la collection permanente. À peu près 200 articles sont exposés. Il y a aussi une carte blanche proposée à 13 artistes d'origines différentes pour investir l'espace du musée et avec des créations régionales. Et pour une des commissaires, Elisabeth Jolie-Schmiel, l'expo est une occasion de rendre les questions d'immigration visibles, c'est-à-dire le sortir de son contexte purement politique et économique et donner des visages et des noms à des inconnus. Donc, comme je disais, il y a beaucoup d'objets. Il y a des photos, des tableaux, les lettres, des objets de mémoire comme les cartes téléphoniques ou les valises. Il y a même un bateau qui s'appelle la Kwasa Kwasa, qui est emblématique des traversées très dangereuses entamées par les migrants, notamment aux îles Comores.
On les connaît très bien sur RFI. Vous avez pu croiser de nombreux artistes, Olia, contemporains à ce vernissage. Est-ce qu'il y en a un ou une qui a particulièrement retenu votre attention ?
J'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec Ong Ko, un artiste de Birmanie qui a créé deux œuvres interactives. Il y a des images de son village qui défilent sur un écran à l'intérieur d'une installation qui s'appelle le Myanmar House. C'est une maison birmane, un abri très simple en bois qui ressemble à des constructions typiques de chez lui. Voici ses commentaires.
home country and the image of the our village. So I was.
Alors que nous dit-il?
Donc il dit, il a grandi dans un village sans électricité, ni téléphone, ni ordinateur, même pas d'hôpital. Mais malgré tout, c'est chez lui, c'est un endroit qui lui manque parce qu'il a dû fuir précipitamment à son pays, comme des milliers d'autres civils au moment d'un coup d'État en 2021. Donc c'est une opportunité pour lui d'inviter les visiteurs de musée de participer dans la construction de la maison. Parce qu'en fait, on prend des bouts de tissu et on les colle sur le toit et à l'intérieur et on partage un moment avec l'artiste.
Et pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site en anglais d'RFI, rfi.fr/, comme on dit en anglais, EN. C'est la fin de cette émission. Accent du Monde à retrouver quand vous le voulez sur rfi.fr/. Merci à Valentin Vaner qui a réalisé cette émission dans 30 secondes, les dessous de l'Infox.